También tiene un momento encima de tatarado. Y en tatarado, le monsieur dit qu'on va vous chercher.
Nous sommes allés rencontrer Marie-Clémence Andrea Montapaes pour discuter autour de son film documentaire Fa'avalo, qui traite de l'insurrection malgache qui a eu lieu en 1947.
Tant qu'on n'écoutera pas la version des lions, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur.
C'est à l'occasion de la projection du film, organisée par le cinéma L'Egyptis, l'atterri de production et l'association marseillaise malgache Dani Mena, que nous avons pu nous entretenir. Alors tout d'abord, le nom du film, ça veut dire quoi, Fa'avalo ?
Alors Fa'avalo, c'est un mot qui veut dire à la fois ennemi et le huitième rang. C'est un mot qui a un double sens, ça veut dire le huitième et l'ennemi. Pourquoi le huitième ? Parce que dans les arts divinatoires malgaches, dans la divination par les graines, le huitième rang est le rang qui désigne l'ennemi. C'est en regardant le huitième rang qu'on comprend qui est l'ennemi, où il est, etc. Et donc, voilà, ce mot était intéressant parce qu'il avait été utilisé par l'administration coloniale. Déjà dès 1905, ils avaient adopté le mot Fa'avalo, qui est un mot malgache, pour l'utiliser dans la presse ou dans les communiqués en français pour désigner les gens qui s'opposaient à la colonisation.
Effectivement, on voit beaucoup la présence de des mots dans votre film. Et puis, quand on vous a entendu parler après la séance, en effet, la langue et la culture, qui sont quand même assez reliés, semblent jouer un grand rôle dans ce film, avec notamment des incrustations de définitions pendant le film de mots malgaches. Donc pourquoi cette décision ?
C'est une très bonne question. C'est un film donc, qui raconte l'histoire de Madagascar, et en particulier l'histoire de 1947, qui est une histoire très peu connue, du point de vue des malgaches. C'est-à-dire que l'idée du film, c'est d'aller écouter ceux qui étaient là au moment des faits, et en particulier ceux qui étaient vraiment aux premières loges, c'est-à-dire là où la rébellion s'est embrasée. Et ce film donc prend le parti de la tradition orale, c'est-à-dire il n'y a pas d'historien, il n'y a pas de spécialiste, il n'y a pas de gens comme ça dans ce film, mais il n'y a que les gens qui ont vécu les faits. Et ces gens-là, ce sont maintenant des petits grands-pères et des petites grands-mères, bien sûr, puisque c'est 70 ans après les faits. Ils racontent cette histoire, mais comme ils raconteraient des histoires à leurs petits-enfants. Et en général, quand le côté chiffres et dates n'a pas beaucoup d'importance. C'est plutôt la compréhension de la logique des choses et des lieux, etc., mais pas nécessairement les quantités. C'est assez intéressant, ça, que la culture orale... Et d'ailleurs, il y a même des folkloristes qui disent « Attention, attention, quand il y a des chiffres dans un conte, en général, c'est faux. » Il y a rarement de chiffres dans les contes. Et donc, j'ai chapitré, si j'ose dire, le film avec six mots qui sont des mots en quelque sorte intraduisibles, c'est-à-dire des mots qui viennent de la langue malgache, mais qui nécessitent 2, 3, voire 4 traductions pour être traduits vers une autre langue. Donc là, dans le film, c'est du malgache vers le français. Par exemple, le mot « vaza », qui est le mot qui désigne... en Afrique, souvent, on dit le « toubab », ou le gringo en Amérique latine. Donc le vaza, c'est le blanc, mais c'est un peu plus large que le blanc. C'est le blanc, le français, mais aussi celui qui s'habille comme un français, c'est-à-dire en brousse. Vous pouvez être malgache et appeler vaza parce que vous vous habillez exactement comme quelqu'un qui vient de Paris. Donc ces définitions de ces mots, c'était important de montrer qu'un même mot pouvait avoir des sens assez différents, en fait. Et que à cause de ces, ça peut même conduire à des malentendus assez graves.
À propos de malentendus justement, dans le film, on entend parler d'un quiproquo sur l'indépendance. Alors, avant de parler de ça, est-ce que vous pouvez nous raconter tout simplement ce qui s'est passé en 1947? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une histoire très peu connue, en fait.
Oui, donc à Madagascar, au retour des soldats malgaches des fronts de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de soldats malgaches qui sont venus faire la guerre sur les fronts européens et du monde. Quand ils sont revenus fin 1946, ils espéraient vraiment qu'ils récupéreraient l'indépendance de la France. Madagascar était colonie française depuis 1896. Et voilà, il y avait eu la Première Guerre mondiale, les Malgaches avaient soutenu, aidé la Seconde Guerre, et vraiment, ils espéraient ça. Et en fait, quand l'indépendance, après, il y a eu des élections en France où ils ont envoyé des députés, il y a eu deux députés malgaches qui représentaient Madagascar à l'Assemblée nationale à Paris. Ces deux députés, quand ils ont demandé l'indépendance, il n'y a même pas eu de débat parlementaire. Et donc, ils ont envoyé un télégramme en disant « Ah, la France ne va pas nous donner tout de suite l'indépendance, ça sera un peu plus tard. » On l'aura, mais un peu plus tard, sans donner vraiment de date sur ce « un peu plus tard ». Et donc, dans le film, il y a un monsieur qui raconte que quand le télégramme est arrivé, les gens à Madagascar ont mal compris et ils ont compris que c'était tout de suite, que c'était bon, ils l'avaient. Et là qu'ils ont commencé, en fait, ils ont commencé à vrai dire à taper. Alors, ils disent, oui, on les a mis dehors, mais il y a effectivement des gens qui ont attaqué des plantations coloniales et aussi des camps militaires. Donc voilà, alors ça s'est passé le 29 mars 1947. Ça a commencé vraiment très fortement le 29 mars. Mais ce qui se passe, c'est que la répression de l'armée des autorités françaises était totalement disproportionnée. Enfin, aujourd'hui, on pense quand même que c'était disproportionné parce que les rebelles, ils étaient uniquement armés de sagaies, c'est-à-dire des lances qu'ils fabriquaient eux-mêmes, des lances, des coupe-coupe, enfin vraiment très peu de choses. Et l'armée française, l'armée et la police, etc., mais surtout l'armée, était équipée d'artillerie lourde, des mitrailleuses, il y avait des avions, il y avait des bateaux, enfin bref, c'était très... Et la répression a été terrible. Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur le nombre de morts. Enfin, disons, le nombre de morts des victimes fait polémique jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui disent qu'il y a eu 30 000 morts, d'autres qui disent, mais non, c'est beaucoup plus proche de 100 000. En tout cas, l'armée française, au moment des faits, se vantait, entre guillemets, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de victimes, mais aussi pour impressionner les gens et dire, voilà, c'est liquidé ce problème.
Comment elle est née, l'envie de réaliser ce film ?
Non, l'envie de faire ce film, c'est parce que j'ai découvert très, très récemment. Très récemment, vraiment. Nous sommes en 2019 et c'est, il y a moins de 10 ans. Alors que j'ai vu une exposition de photos de Pierre Homaine et avec des textes de Jean-Luc Rahman, qui sont deux artistes malgaches, j'ai posé la question. Cette exposition m'avait beaucoup impressionnée, par la proximité qu'il y avait entre ce que je savais de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre, la façon dont, pendant la Seconde Guerre, on a opprimé des populations, et les Juifs notamment, mais pas que. Hein. Et donc, ça m'avait beaucoup impressionné dans les récits de ces anciens dans l'expo, que on entassait les gens dans des wagons, on les mettait dans des camps. Enfin, il y avait une imagerie qui, moi, me a renvoyé à quelque chose de terrible. Et donc, j'ai posé la question à ma mère de ce qu'elle faisait, elle. Et elle m'a expliqué que pendant un an, alors qu'elle était adolescente, elle devait aller à la prison de Fianarantsoa tous les jours pour nourrir son père. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi elle ne m'avait jamais raconté ça ? Moi, je savais juste que j'ai jamais connu mon grand-père, donc son père à elle. J'ai jamais connu mon grand-père. Je savais juste qu'il était mort très jeune de maladie. On m'avait dit que ça. Et en fait, donc ce jour-là, je découvre qu'il était en prison et qu'il avait contracté une maladie en prison et que 8 semaines après sa sortie, il est mort. Et donc quand je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça ?» Elle m'a dit « Mais parce que tu ne m'as pas demandé. » Et donc j'ai voulu faire ce film précisément pour que les autres puissent demander. Moi, j'ai demandé grâce à cette expo, c'est-à-dire que cette expo m'a fait découvrir un nouvel aspect de cet épisode terrible de l'histoire. Et j'espère que ce film, eh ben, ça va suffisamment, pas seulement faire découvrir, mais aussi un peu dépoussiérer ce qu'on sait. Alors, tout n'est pas dans le film, mais il y a suffisamment pour qu'on comprenne quand même qu'on ait des éléments pour comprendre ce qui s'est passé.
Vous avez mentionné le fait que vous aviez eu du mal à trouver des archives justement de ces événements-là d'ailleurs. Oui. Et donc on a un mélange d'archives qui sont plus administratives et un mélange de récits, oui, de personnes qui n'ont rien à faire avec l'administration. Mm-hmm. Comment ça a été fait pour être géré ?
Ce qui m'a motivée au-delà de cette histoire de ma famille proche, c'est le point de vue des Malgaches, comme je disais tout à l'heure. Ça, le point de vue des Malgaches, c'est un peu comme cet adage africain où on dit « Tant qu'on n'écoutera pas la version des lions, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. » Et donc, on entend beaucoup ça en Afrique. Et moi, mon film, c'était ça. Moi, j'avais décidé d'aller écouter les lions, les lionnes, parce qu'il y a quand même beaucoup de lionnes dans mon film, et les lionceaux, les tout-petits qui sont là, mais bon, ils voient, ils se souviennent, ils ne sont pas forcément actifs, mais ils voient des choses. Et donc, c'est ce point de vue-là, c'est, bon, je savais que mon ambition, c'était de transmettre à des gens comme vous, enfin, à une autre génération. Donc, on ne va pas faire un film qu'avec des vieux tout édentés. Même s'ils se disent des choses passionnantes. Bon, il y a cette question-là de comment raconter cette histoire, mais que quand même ça soit un film de cinéma et pas juste une accumulation de témoignages, m'a beaucoup travaillé. Et donc, il y a ces témoignages, certes, oraux, très vivants d'ailleurs, hein, parce qu'ils savent très bien raconter, mais il y a aussi des photos que j'ai trouvées dans les archives à Madagascar. Il y a aussi des archives sonores. Il y a 3 archives sonores dans mon film que j'ai trouvées complètement par hasard qui sont donc des archives de l'époque enregistrées en 1948. Et il y a aussi des archives filmées, c'est des archives qu'on a trouvées un peu par hasard dans des greniers de gens qui sont des archives des années 40 de la vie quotidienne à Madagascar. Et enfin, la dernière archive, c'est effectivement les archives administratives, c'est-à-dire vraiment ce qui a été écrit au moment des faits dans les archives de la police ou de l'armée. Donc tout ça, c'est... Alors ça a l'air comme ça très dérangé, mais en fait, c'est pour... Un récit amène l'autre. Donc souvent, le récit d'une grand-mère sur comment elle était avec son bébé est suivi par des images d'archives de mamans de l'époque des années 40 avec leur bébé, comment elle... Donc ça a été compliqué de trouver les archives parce qu'en fait, il y en a ici à côté de Marseille. Moi, j'invite vraiment tous ceux qui peuvent et tous ceux qui sont passionnés à aller à Aix, en Provence, aux Archives nationales d'outre-mer, à la NOM. Et d'ailleurs, ce n'est pas que les archives de Madagascar, c'est toutes les archives de l'Empire colonial français qui sont là.
Peut-être que ce film, après, deviendra votre film deviendra une icône des archives malgaches.
Je l'espère.
D'ailleurs, ce film qui raconte une histoire passée, mmh, est-ce que vous pouvez voir des parallèles avec l'histoire moderne de Madagascar ?
Oui. Oh, c'est une très bonne question. Le film se termine, c'est pas un spoil de dire ça, mais le film se termine par un des témoins qui est assez important dans le film, qui raconte beaucoup de choses, qui a été un vrai rebelle, lui, Et quand je lui ai demandé, bon voilà, moi j'ai fini, j'ai posé toutes mes questions, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas demandé que vous voudriez dire? Et il m'a sorti la phrase suivante, il m'a dit, bon, c'est très important, la chose la plus importante, c'est de nourrir ses enfants et ses petits-enfants et ses descendants. Et je suis très inquiet parce qu'ils ne cultivent plus les rizières aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent, ils ont arrêté de cultiver du riz. Et maintenant, tout se précipite à aller cueillir de la vanille et les rizières sont de plus en plus rares. Donc voilà, c'est ça mon message. Et donc, ça paraît très éloigné du sujet du film qui est sur 1947. Et en fait, ce grand-père a attiré mon attention sur le fait que non, c'est une problématique totalement contemporaine. Parce qu'en fait, en 1947, les paysans le long, alors bien sûr, c'était pour obtenir l'indépendance, mais c'était aussi se libérer d'un système colonial très, très oppressant, parce que les terres des paysans avaient été accaparées pour planter du café et du tapioca pour l'exportation, pour envoyer vers la métropole. Aujourd'hui, bon, ce n'est plus une colonie, Madagascar, officiellement. Et pourtant, on dit aux Malgaches, bah, écoutez, faites de la culture d'exportation. Faites de la vanille, faites donc ça, et puis vous achèterez votre riz en Asie, au Pakistan, ou je ne sais où. Et donc, en quelque sorte, c'est créer une dépendance très forte de Madagascar vis-à-vis de l'exportation pour la chose la plus basique qui est se nourrir. Les Malgaches, ils mangent du riz matin, midi, soir. Hein. Le riz est la base. D'ailleurs, on ne dit pas manger, on dit manger du riz. Donc, pour moi... cet aspect-là des choses, c'est-à-dire dans un pays où 90% des gens, enfin 90% à l'époque, mais aujourd'hui je crois qu'on doit être autour de 70 à 80% de la population est rurale et vit à la campagne, la question de qu'est-ce qu'on fait avec les terres et qu'est-ce qu'on fait pour nourrir les populations, elle est centrale. On ne peut plus aujourd'hui dire aux populations en Afrique, écoutez, faites de la monoculture, ça ira bien pour vous, on vous promet, les cours seront toujours hauts. Non, ils ne peuvent pas promettre ça. La vanille, un jour, le cours va s'effondrer, c'est sûr. Voilà, c'est ça le lien avec le monde d'aujourd'hui, pour moi, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'il y a une logique économique qui, bien qu'on dise qu'on soit indépendant et que c'est moderne, etc., il y a une logique économique qui pour moi, est très, très, très néocoloniale.
Donc, je vais vous demander la même chose que vous avez demandé à ce monsieur... Qui a terminé votre film, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter que vous n'avez pas dit, que je ne vous ai pas posé comme question ?
Non, je suis très touchée en fait par la diversité du public qui est venu hier. Ça me touche beaucoup que vous m'interviewez aujourd'hui parce qu'il y a vraiment, ça prouve que le film peut passer les générations parce que parfois maintenant au cinéma... de plus en plus souvent, ce sont des boucles grises qui viennent au cinéma parce que les jeunes générations consomment les images plutôt sur leur tablette ou sur leur téléphone. Et que pour moi, c'était très beau d'avoir cette vision collective, d'être ensemble et justement de discuter sur le film après et même de discuter le lendemain parce qu'effectivement, on digère. Donc moi ce qui me touche, c'est effectivement que cette histoire parte, m'échappe en fait, m'échappe complètement et que les gens se l'approprient et se le transmettent, c'est ça le plus important, parce que on dit toujours celui qui ignore son histoire est condamné à la revivre, et donc c'est vraiment important qu'on n'ignore pas son histoire.
C'était un retour sur le film Faavalo avec sa réalisatrice Marie-Clémence Andrea Montapaes et les musiques de la bande originale du film composée par Régis Gisavo. Vous pouvez retrouver tout ce qui concerne le film sur faavalo-film.com et nous, on vous retrouve sur les 3 huttes de la grenouille.